auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Me voilà avec vous pour notre émission Conseil et démaillage. C'est le droit pour tous sur Radio Arc-en-Ciel. Comme vous l'avez entendu, vous avez aperçu, nous avons un nouveau technicien, ou du moins c'est notre technicien habituel, mais pas celui qui fait conseil démaillage. Donc c'est pour ça qu'il a dit démaillage. Il n'a pas dit conseil démaillage, il a dit allons, on trouve démaillage avec Annie. Eh bien c'est Loïc. Loïc est avec nous, avec l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, toute l'équipe. Quand je dis toute l'équipe, bien sûr, Loïc, il existe dans le Radio Arc-en-Ciel, mais on entend plutôt souvent ceux qui sont à l'antenne, par exemple Didier, et aussi il y en a qui sont sur le terrain, etc. Et puis tous ceux que l'on n'entend pas, hein. Tous ceux qui travaillent, ce sont les abeilles, d'ailleurs on appelle ça les abeilles. Eh bien, tout ça, toute l'équipe est avec nous pour vous présenter cette émission Conseil d'émaillage, le droit pour tous. Alors c'est avec Loïc qu'on va faire tout ça aujourd'hui pendant cette heure de Conseil d'émaillage. Alors Conseil d'émaillage, comme je vous le disais, c'est une émission qui vient en aide aux personnes en difficulté et nécessiteuses dans leur démarche administrative et juridique. Alors, comment ça se passe? Alors, les personnes qui ont des difficultés, eh bien, ils écrivent à Conseil d'émaillage sur conseil@radioarc-en-ciel.re et je réponds aux questions. J'aide dans leur démarche, au niveau juridique également. Je sers d'intermédiaire souvent avec les avocats, avec les notaires. Enfin, voilà, c'est le rôle de Conseil d'émaillage qui ne remplace pas, bien sûr, qui ne se substitue pas aux services dédiés, administratifs des communes, etc., les CCS, etc., mais complète. Eh bien, viens compléter votre démarche, puisque souvent les gens n'ont pas les moyens, et surtout ceux qui n'ont pas de revenus, qui sont pauvres, comme dit Créole. Alors, Radio Arc-en-Ciel a été sensible à tous ces problèmes-là et a mis cette émission en place, qui existe déjà plusieurs années déjà. Eh bien, c'est Conseil d'émaillage, c'est le droit pour tous. Il y a un numéro de téléphone, 02 62 41 66 16, c'est pour le direct, et le portable que je vous donnerai à la fin. Et je vous remercie de ne pas appeler puisque je ne répondrai pas. Hein. Alors, l'adresse postale, c'est 18 bis rue Montreuil, 97 400 Saint-Denis. J'en profite aussi pour faire un gros coucou que je fais d'habitude à tous nos fidèles auditeurs, à nos auditeurs en général, à ceux qui nous rejoignent. Eh bien, je souhaite bienvenue. Et puis, je souhaite bon rétablissement à tous ceux qui sont malades ou qui sont au lit. Alors, donc, parce que la COVID court toujours et j'en connais qui sont malades. Alors, je leur souhaite un bon rétablissement. Voilà pour ce qui est de l'émission de Conseil d'émaillage. Et comme d'habitude, eh bien, je vous donnerai point par point tout ce dont nous allons aborder comme sujet.
Enfant, tu partiras un jour lorsque tu seras grand. Tu devras t'en aller et mener seul ta vie. Et ce jour-là, tu ne seras plus notre petit. Les années se sont écoulées, finies les gâteries. Enfantine, fini les idioties. Tout le monde me disait, tu es un grand garçon, et il te faut relever un coup de menton. Et je vais y laisser tous mes amours passés. Oui, je vais le quitter, oui, mes regrets. Et qui sait si j'y reviendrai. Na 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 na
Bon, voilà. Donc, nous allons aborder les points, tous les points. Enfin, je vais vous annoncer tous les points que nous allons aborder, d'une part. Mais d'autre part, je voulais quand même donner deux petits mots sur les textos que j'ai reçus. J'ai reçu plusieurs appels, hein, notamment plusieurs appels de la même personne, hein, et aussi d'autres appels que je n'ai pas répondu, mais vous pouvez renouveler votre appel ou alors envoyer un texto. Mais là, je réponds au texto de la personne qui me parle de son problème avec son voisin. Il me dit, je vous rappelle mon problème avec notre voisin, je reviens vers vous. Alors, comme j'ai eu pas mal de dossiers à m'en occuper, ou du moins d'interrogations sur des problèmes de voisins, alors ben, je leur ai dit que je vais rappeler après l'émission, bien sûr, et puis pour voir un peu de quoi il s'agit. Hein. C'est pour ça que le mail est beaucoup plus explicite, beaucoup plus facile, puisque lorsque vous me rappelez, eh ben, j'ai déjà les anciens mails. J'avais fait un rappel à une personne qui est venue me rencontrer au sujet de son père, pour l'aide de son père et le cas de sa sœur qui voudrait s'arrêter de travailler pour s'occuper de son père. Alors, j'ai déjà les éléments. Je voudrais qu'elle me rappelle ou elle me renvoie un petit texto ou un mail, puisque comme je reçois beaucoup de mails, c'est perdu là-dedans. Et donc, il faut qu'on me le rappelle et qu'elle me laisse aussi son numéro de téléphone dans le mail. Voilà pour ce qui est de cette personne qui a besoin de l'aide dans sa démarche pour que sa sœur s'occupe de son père. Ils sont plusieurs, ils s'entendent beaucoup, ils s'entendent très bien. Mais là, elle avait besoin de l'aide pour savoir comment elle va faire avec sa sœur qui voudrait bien aider son père en arrêtant de travailler. J'ai un autre texto qui me dit qu'elle revient vers moi concernant un problème de bail en particulier, un faux bail. Elle dit ça faux bail, mais en réalité, elle a signé un bail alors qu'elle n'avait pas le droit, le terrain ne lui appartient pas, et un bail de 10 ans, et que la personne lui a fait signer, enfin bref, que ça appartient à son fils, qu'il n'y a pas de date. Elle a consulté la justice, un juriste du logement, délégué, procureur, conciliateur, etc., l'office notarial, etc., et elle revient vers moi. Alors, je me demande si conseiller des maillages fait des miracles, parce que avec tout ça qu'elle a consulté, elle revient vers conseiller des maillages. Alors, je vais revoir le dossier, et puis je vous tiendrai au courant, puisque ça peut arriver à d'autres auditeurs qui nous écoutent à conseiller des maillages. Voilà pour ce qui est des textos. Hein. Et aujourd'hui, nous allons parler des élections législatives. Je vais vous donner des informations pratiques. Qu'est-ce qu'un député? Quel est le rôle du député? Quel est le rôle de l'Assemblée nationale? Mais ça va être vraiment très succinct. Je vous dirai juste quelques mots pour ne pas vous embêter, pour ne pas vous barber, entre guillemets, d'informations. Hein, parce que vous savez bien que l'information tue l'information. Alors, donc, trop d'informations tue l'information. Alors, nous allons parler aussi du recul d'âge de la retraite à 65 ans. Serez-vous concerné par la réforme? Hein, la retraite minimale, minimum contributif. Je ferai un petit rappel aussi pour ce qui concerne le montant de l'ASPA, puisque jeudi dernier, je cherchais le montant exact pour une personne pour l'ASPA. Hein. Vous savez bien, l'aide pour les personnes âgées qui touchent type retraite. Là. Je voulais vous donner le montant pour une personne et le montant pour deux personnes. Alors aujourd'hui, je vais le donner. Et alors, nous allons retourner aussi sur les termes employés par Emmanuel Macron pour décrypter ce qu'il vise exactement avec la retraite minimale à 1100 euros. Hein. Ce n'est pas encore en train de faire de loi ou quoi que ce soit, hein, mais on va débattre un petit peu. Je vais vous donner un petit, pas débattre, non, mais je vais vous donner un petit peu d'informations sur le sujet. Alors, le gouvernement prévoit des crédits supplémentaires pour créer des solutions pour les personnes âgées dans les régions insulaires et ultramarines. La Corse et l'Outre-mer, vous voyez bien, nous sommes concernés. Bientôt, un plan de rattrapage de l'offre, entre guillemets, personnes âgées. Directeur d'école, je vais parler des directeurs d'école. Un nouveau régime de décharge de service. J'en profite pour faire un clin d'œil à un fidèle auditeur de directeur d'école qui est à Mayotte et qui nous écoute régulièrement, qui est notre fidèle auditeur. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu ni eu de nouvelles. Après, même en ayant peu cotisé, vous pouvez prétendre à un revenu minimum une fois à la retraite. Même si vous avez cotisé un petit peu, vous en avez le droit à un minimum une fois à la retraite. Mais les conditions pour en bénéficier varient en fonction de votre situation. Nous allons parler de l'aide à domicile. Ça concerne beaucoup de personnes, ça. La mise en œuvre de la dotation qualité, entre guillemets, précisée par décret. C'est un décret qui a été publié. Hein, je vous donnerai les informations. C'est très récent. La dotation qualité versée aux services à domicile à partir de septembre 2022, bientôt, permettra par exemple de financer des actions visant à garantir une large amplitude horaire d'intervention. Hein? Une large amplitude horaire d'intervention, quoi veut dire ça? Veut dire une grande possibilité horaire alors pour faire des interventions. D'accord? Nous allons parler des indépendants. Découvrez les prestations sociales auxquelles vous êtes éligible en quelques clics pour les indépendants. Ensuite, les questions des auditeurs, ça je vous l'ai fait savoir tout à l'heure et j'ai répondu en partie.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés.
Voilà. Bon, voilà donc les dates des élections législatives. Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. Le décret portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale a été publié au journal officiel du 26 avril 2022. Alors, les élections législatives donc se dérouleront en France métropolitaine, à La Réunion et à Mayotte les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les élections législatives des 12 et 19 juin 2022 renouvellent dans son intégralité l'Assemblée nationale. Dans son intégralité, des autres, ils renouvellent toutes. La Constitution fixe le nombre maximum de députés à 577. Les 577 sièges sont répartis à raison de 558 pour les départements, 8 pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer, 11 pour les Français de l'étranger. D'accord ? C'est le décret 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Alors, nous allons donner quelques mots sur les informations pratiques. La date des élections, inscription sur les listes, documents pour voter, etc. La date des élections, je vous l'ai dit, c'est le décret qui les a fixés le 26 avril 2022. C'est ce décret qui fixe justement les dates des élections législatives. C'est ce décret qui est apparu le 26 avril 2022. Alors, les listes électorales, inscription et vérification des listes électorales. Pour pouvoir voter aux élections législatives de 2022, il faut être inscrit sur les listes électorales. La date limite d'inscription en ligne est fixée au 4 mai 2022. Vous pouvez vérifier votre situation électorale en utilisant le service en ligne disponible sur service-public.fr. Vous avez demandé votre inscription sur les listes électorales, mais vous n'avez reçu aucun courrier depuis. Vous avez vérifié votre situation électorale, vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales. Que pouvez-vous faire pour pouvoir voter ? Vous pouvez également vérifier l'adresse de votre bureau sur votre carte électorale, service-public.fr. Alors, vote par procuration. Vacances, obligations professionnelles, formation, problèmes de santé, vous êtes absent de votre domicile au moment des élections législatives. Vous pouvez toujours voter par procuration sans avoir à en attester la raison. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de dire pour que ça, vous donne procuration. Vote par procuration, vous êtes le mandataire. Si c'est vous qui en a la procuration. On vous a donné procuration pour voter. Quelles sont les formalités à connaître au moment des opérations de vote et que se passe-t-il en cas de défaut de réception de la procuration? Il y a une instruction du ministère de l'Intérieur du 31 décembre 2021 vous précise tout ce qu'il faut savoir. Vous tapez sur vous cliquez sur www.service-public.fr. D'ailleurs, si vous avez des questions autres ou un doute ou quoi que ce soit, conseil d'émaillage est là pour vous donner, hein, conseil@radioarc-en-ciel.re ou alors le numéro de portable que je vous donnerai à la fin. Le déroulement des élections. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h, heure légale locale. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, des arrêtés peuvent être pris dans certaines communes ou circonscriptions administratives afin d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture du scrutin. En aucun cas, le scrutin ne peut être clos après 20h, heure légale locale. Hein. Les arrêtés seront publiés, affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé, 5 jours au moins avant le jour du scrutin. Alors, vous allez faire référence au décret du 25 avril 2022, bien sûr, portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Alors, la carte d'électeur. Qu'est-ce que la carte électorale? Est-elle obligatoire pour voter? Comment l'obtenir? Vous allez toujours sur service-public.fr et qui vous explique tout, y compris ses nouveautés, hein, tout ce qu'il y a comme nouveauté. Les pièces d'identité à présenter pour voter. Pour voter, il faut vous présenter au bureau de vote indiqué sur la carte électorale ou bien sur le service en ligne, interroger votre situation électorale. Dans les communes de 1000 habitants ou plus, il est nécessaire de présenter une pièce d'identité. Si vous avez changé d'adresse non signalée ou signalée tardivement, si vous avez changé d'adresse après le 4 mars, vous devez le signaler, mais la modification ne prend effet que pour les élections législatives. Cependant, vous pouvez encore voter dans votre commune d'origine. Dans ce cas, il vaut mieux vérifier auprès de votre mairie d'origine si vous êtes toujours sur ces listes. Vote des personnes handicapées. Si un handicap ou une maladie grave vous empêche de vous déplacer et que vous souhaitez établir une procuration pour voter, vous pouvez demander qu'un personnel de police ou de gendarmerie se déplace à votre domicile ou dans un établissement spécialisé, si vous êtes en EHPAD ou bien à l'hôpital, c'est-à-dire maison retraite ou bien dans l'hôpital. Vous pouvez vérifier votre identité. Les personnes en situation de handicap peuvent voter en se rendant directement au bureau de vote qui doit être obligatoirement accessible à tous, comme le prévoit le code électoral. Le droit de vote des détenus, en fait ça l'est en prison, ils appellent ça détenu. Le fait d'être détenu ne prive pas le droit de vote. Seules les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et l'élection perdent leur capacité électorale. D'accord ? Donc, une personne détenue peut voter. Français installés à l'étranger, les électeurs domiciliés à l'étranger peuvent voter aux élections législatives s'ils figurent sur une liste électorale consulaire. Il est cependant possible pour ceux qui sont inscrits uniquement sur une liste électorale en France de voter en France, personnellement ou en donnant procuration. Alors, pour voter dans un bureau de vote à l'étranger, vous pouvez prochainement trouver en ligne la liste des bureaux de vote ouverts à cette occasion dans les ambassades et les postes consulaires et les listes des bureaux dont l'heure de clôture du scrutin est retardée. Hein, vous allez sur le vote à l'étranger, installé à l'étranger, www.service-public.fr, d'accord ? Vos droits. Alors, pour en savoir plus, c'est bien conseil@radioarc-en-ciel.re. Je vais vous dire aussi qu'est-ce qu'un député. Alors, un député est un parlementaire qui, à l'Assemblée nationale, participe au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. L'Assemblée nationale forme, avec le Sénat, le pouvoir législatif. Alors, quel est le rôle du député? Bien qu'élu dans le cadre d'une circonscription, chaque député, compte tenu de la mission de vote de la loi et du contrôle de l'action du gouvernement dévolu à l'Assemblée nationale, représente la nation tout entière et exerce à ce titre un mandat national. La souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. C'est l'article 3 de la Constitution. La Constitution interdit le mandat impératif. C'est l'article 27. En conséquence, les députés se déterminent librement dans l'exercice de leur mandat. Le député détient des compétences diverses. Il vote la loi, il peut déposer des propositions de loi. En commission, puis en séance publique, il peut proposer par amendement des modifications au texte examiné et prendre la parole. En cas de désaccord avec les sénateurs en termes de la « navette » entre les deux chambres, et si la commission mixte paritaire, le CMP, ne parvient pas à un texte commun, les députés peuvent statuer définitivement sur demande du gouvernement. C'est l'article 45, alinéa 4 de la Constitution. Après le vote d'une loi, Un député peut, avec au moins 59 autres députés, saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la conformité du texte voté à la Constitution. Au titre de contrôle, le député peut interroger le gouvernement, examiner son action au sein de la Commission, voir s'il est rapporteur spécial au sein de la Commission des finances, contrôler l'emploi de l'argent public. Il peut également, en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de l'Assemblée des députés, mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Un député appartient obligatoirement à l'une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée, dont la fonction principale est de préparer le débat qui aura lieu en séance publique et qui aboutira au vote de la loi. Par ailleurs, un député peut être élu par les autres députés, membres de la Cour de justice de la République, composés de 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats, afin de juger les membres et anciens membres du gouvernement. Les députés forment avec les sénateurs la haute cour chargée depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007 de se prononcer sur une éventuelle destitution du président de la République. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le député est renvoyé devant ses sénateurs. Alors, je ne vais pas vous parler des modes d'élection des députés, tout ça, hein, ça va être trop barbant pour vous. Alors, la nature du mandat représentatif. Depuis la Révolution française, les députés représentent la nation tout entière et non leurs électeurs. Les députés sont aujourd'hui élus dans le cadre de circonscriptions à l'intérieur d'un département dans la plupart des cas. Les pays et collectivités d'outre-mer ainsi que les Français établis en France élisent aussi des députés. Les élus sont en contact avec leurs concitoyens. Ils tiennent des permanences, organisent des réunions publiques, répondent à de multiples sollicitations, font remonter la préoccupation de leurs électeurs vers les circuits de décision nationaux, etc. Pour autant, investis d'un mandat national, les députés ne sont pas les porte-parole de leurs électeurs. Ils se déterminent par rapport à leur vision de l'intérêt général. Alors, qu'est-ce qu'un député, un métier, une fonction, un mandat? Être député, ce n'est pas un métier. Aucun diplôme particulier, ni aucun savoir-faire n'est exigé pour légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Ce n'est pas non plus une fonction. Un député est un élu, pas nommé par une autorité extérieure. Être député, c'est donc exercer un mandat, comme l'indique l'article 3 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Voilà, je vous ai donné quelques petits points sur les députés, sur les élections, parce qu'il y en a qui ont posé des questions. Alors, quel est le rôle de l'Assemblée nationale? Alors, il y a 577 députés qui siègent au Palais Bourbon. Hein, il y a un travail législatif, l'examen des projets de loi, dépôt de propositions de loi, dépôt d'amendements, vote de la loi. En cas de désaccord avec le Sénat, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Il y a le contrôle de l'action du gouvernement, question du gouvernement, motion de censure, commission d'enquête. Il y a l'évaluation des politiques publiques, contrôle de l'application des lois, travaux de la commission d'évaluation du contrôle, MEC, MEC. Alors, voilà pour ce qui est de toute cette affaire d'élections et des questions et les interrogations sur les élections. Alors, il y en a qui disent que moi, je ne vote plus. Alors, c'est vrai que le vote est un devoir, mais c'est aussi un droit. Ou du moins, c'est un droit et aussi un devoir. Mais bon, il y en a qui disent qu'ils sont dégoûtés, qui pour X raisons ne votent plus, etc. Alors, je ne suis pas là pour faire l'école, mais je me dis que si on ne vote pas, eh bien, on donne la chance à la personne qu'on voudrait pas qu'il soit élu. Donc, il faudrait que, du moins qu'on vote même nul, mais il faudrait aller voter, il faut se prononcer, parce que sinon, justement, vous faites la politique de la chaise vide, et à ce moment-là, ceux qui sont là, ils sont toujours là. Voilà. C'est pourquoi je dis que souvent, on dit, j'en ai marre, je vote plus, mais c'est un devoir, et c'est aussi un droit, donc vous avez le droit, et vous avez aussi le devoir, parce que sinon, comme je vous le dis, les personnes que vous ne souhaitez pas qui restent en place, il va rester parce que vous n'êtes pas allé voter. Si plusieurs d'entre vous, d'entre ces personnes qui ne veulent plus que cette personne siège, au contraire, il leur tend la perche. C'est-à-dire, ils ne votent pas, donc la personne sera toujours là. Voilà. Je voulais juste dire ce mot-là parce que souvent j'entends ça ici et là. Et conseil et démaillage ne fait pas de politique, comme je vous l'ai dit la fois dernière. Hein, on ne fait pas de politique. Sauf, je suis en train de vous dire le droit, la loi, le droit de vote. Voilà pour ce qui est des élections.
Ça, tu vends mon pays. Oh.
alors, nous passons au recul d'âge, recul de l'âge de la retraite à 65 ans. Est-ce que vous serez concerné par la réforme ? Retraite minimale, minimum contributif. Ben, je fais un petit retour sur ces termes qui ont été employés par Emmanuel Macron pour décrypter ce qu'il vise exactement avec la retraite minimale de 1100 euros. Alors, la retraite à 65 ans, pour qui et pour quand ? Lors du débat d'entre deux tours, Emmanuel Macron, candidat à sa succession, a précisé ses intentions concernant le recul de l'âge de départ à la retraite. Il y aura d'abord une concertation et une négociation. L'objectif est de pouvoir monter les pensions à 1100 euros pour une pension complète minimale, de pouvoir prendre en compte à la fois les carrières longues et la pénibilité. La carrière longue, tu connais ce que ça veut dire. La carrière longue, c'est prendre notre retraite parce que je l'ai travaillé avant 20 ans. C'est-à-dire que Nana la commence avant 16-17 ans. Eh bien, à l'époque, c'était 16-17 ans. Et après, au fur et à mesure, ben, les salariés allaient travailler encore longtemps puisqu'il y avait des études, etc. Et puis, depuis que François Hollande était au pouvoir, eh ben, il a fait sortir un décret et désormais, c'est avoir travaillé avant 20 ans. Si vous avez travaillé avant 20 ans, vous rentrez dans le cadre, avec deux autres conditions, vous rentrez dans le cadre de la carrière longue. C'est-à-dire, vous allez partir à partir de 60 ans, ou parfois avant, ou 59 ans, 58 ans, ça dépend. Eh bien, pour carrière longue, et vous allez partir avec votre retraite pleine. C'est-à-dire que vous travaillez encore ou pas, eh bien, vous allez quand même avoir le même montant. Donc, autant faire partir en carrière longue. Hein, voilà. Mais ça, on n'est pas sur le sujet, là. Hein. Et la pénibilité, c'est quoi ? La pénibilité, c'est tous ceux qui travaillent, par exemple, dans les canalisations, les travailleurs insalubres, les travailleurs sur camion belle, camion poubelle, là, je te connais, des techniciens, certains techniciens, etc. Eh bien, quand c'est prévu, pardon, qu'il y a pénibilité, eh bien, si ça s'appelle la pénibilité, eh bien, vous allez aller avant 60 ans. D'accord ? Alors, c'est justement l'objectif de pouvoir monter les pensions à 1100 euros pour prendre en compte une pension complète minimale, de pouvoir prendre en compte à la fois les carrières longues et pénibilités, mais l'objectif pour pouvoir financer tout cela et aussi notre modèle social. C'est de déclarer de 4 mois par an l'âge légal. C'est de décaler de 4 mois par an l'âge légal. Et donc, on va passer de 62 ans à 62 ans plus 4 mois, plus 8 mois, etc., avec 4 mois au fur et à mesure, etc. Hein. Ce qui veut dire 64 ans en 2028 et en 2031, 65 ans. Alors, la retraite minimale contributif, ben, retour sur ces termes employés. Dans son livre de campagne, Emmanuel Macron indiquait au chapitre des retraites vouloir augmenter la pension minimale à taux plein 1100 euros par mois. Le 20 avril, lors du débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, il disait vouloir passer la retraite minimum contributif, qui est aujourd'hui de 980 euros à 1100 euros. Retraite minimum contributif, c'est un terme qui n'existe pas en tant que tel et qui semble volontairement confusant par Bruno Chrétien, président de l'Institut de protection sociale IPS. Et c'est lui qui dit ça, hein. C'est un peu confusant, volontairement confusant. Il prête à confusion, quoi. D'autant que les 980 euros évoqués ne correspondent ni au minimum contributif, ni à l'allocation VSC aux personnes qui ont de faibles ressources. En réalité, il s'agirait de la retraite moyenne VSC aux personnes qui ont travaillé toute leur vie au SMIC grâce au mécanisme du minimum contributif. L'idée de ce minimum était de donner un avantage aux personnes qui avaient cotisé toute leur vie par rapport à ceux qui perçoivent une pension minimale, minimum vieillesse, devenue allocation de solidarité aux personnes âgées, sans avoir beaucoup travaillé. Aujourd'hui, avec une ASPA à 916,78 euros par mois, pour une personne seule, l'écart n'est plus très significatif. Il y avait donc deux solutions, baisser le montant de l'ASPA, envisageable, ou augmenter le minimum contributif. Alors voilà, c'est pour vous donner un petit peu les détails de cette histoire de 1100 euros par mois, parce qu'il y a beaucoup qui confondent et qui disent, voilà, le président de la République a annoncé que nous, ça gagne 1100 euros, tout le monde. Non, ben voilà le détail de ce qui se passe réellement. Hein. Alors, nous allons passer au point. Bientôt, en Corse et en Outre-mer, bientôt un plan de rattrapage de l'offre personnes âgées. Hein, nous passons à un autre point là. Hein. Les départements d'Outre-mer, Guyane, Réunion, Guadeloupe, Martinique et la Corse, présentent un nombre d'EHPAD insuffisant par rapport au vieillissement de leur population. Eh bien, pour répondre à ce défi, mis en lumière par un rapport parlementaire, le ministre délégué à l'autonomie engage un programme de rattrapage de l'offre aux personnes âgées dans ces territoires cadrés par une circulaire du 28 mars 2022. Vous voyez que je suis toujours au taquet, hein. Conseil des maillages est toujours au taquet, hein. Ce plan vise à proposer de nouvelles solutions aux personnes et à leurs familles. Plus précisément, celles ayant des besoins d'accompagnement et des besoins plus prononcés, des situations sociales les plus précaires et les plus isolées. C'est ce qu'indique le texte. Pour cela, le gouvernement prévoit des crédits d'aide à l'investissement et des dotations soins supplémentaires. Les agences régionales de santé et ces régions sont chargées de formuler une proposition de stratégie pluriannuelle de développement de l'offre dans laquelle seront définies les offres les plus pertinentes à développer. Hébergement permanent en EHPAD, accueil de jour, services de soins infirmiers à domicile, les SICIAD, habitat inclusif, etc. Alors, tout ce que je viens de vous dire, je purge dans une source circulaire du 28 mars 2022. J'ai purgé en clair. Alors, maintenant, nous allons donner une information sur les directeurs d'école. Un nouveau régime de décharge de services. À compter du 1er septembre 2022, les directeurs des écoles maternelles, élémentaires ou primaires bénéficieront d'un régime unifié de décharge de services. En application de l'article 1er du décret du 30 juillet 2008, les directeurs d'école bénéficient de décharges de leurs services d'enseignement. Celles-ci varient selon la taille, la nature, maternelle, élémentaire ou primaire, et la spécialité de l'école. Les décharges peuvent être exceptionnellement majorées sur décision de l'autorité académique en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles. Eh bien, il y a un décret du 13 mai 2022, hein, publié au journal officiel du 14 avril 2022, définit le nouveau régime des décharges de services applicables aux directeurs d'école. À compter du 1er septembre 2022, les directeurs des écoles maternelles, élémentaires ou primaires bénéficieront d'un régime unifié des décharges de services. En fonction du nombre de classes de l'établissement scolaire, celui-ci prévoit les décharges d'enseignement suivantes. Une classe égale 6 jours fonctionnables, à savoir 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre. Si c'est 2 ou 3 classes, 12 jours fonctionnables, à raison d'au moins une journée par mois. 4 ou 5 classes, quart de décharge. 6 ou 8 classes, tiers de décharge. 9 ou 11 classes, demi-décharge. Et 12 classes et plus, décharge totale. Il est à noter que l'article 5 du décret fixe un régime particulier pour les écoles comptant une unité localisée pour l'inclusion scolaire, l'ULIS. Donc, tu connais bonne classe ULIS, dédiée aux élèves en situation de handicap. Ainsi, lorsque l'école comprend une ULIS, cette unité compte pour une classe dans la définition de la quotité de décharge. Les directeurs d'école hébergeant au moins 3 ULIS bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun, lorsque leur école compte moins de 5 classes. Lorsque celle-ci compte 5 classes ou plus, les directeurs bénéficient alors d'une décharge totale d'enseignement. Voilà pour ce qui est des nouvelles pour les directeurs d'école que je connais pas mal. Alors, nous allons parler du décret qui est relatif au financement des services proposant des prestations d'aide à l'accompagnement à domicile. Alors, l'aide accompagnement à domicile. Donc, c'est bien ce point-là que je cherche. Bon, alors, c'est un décret, hein, qui a été publié et qui est relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement. Qui sont concernés? Bien sûr, les conseils départementaux, départements et collectivités d'outre-mer, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, services prestataires proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile, personnes âgées et personnes en situation de handicap. Quel est l'objet de ce décret? Eh bien, c'est le financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile. L'entrée en vigueur, quand ça rentre en vigueur, les dispositions des articles 1 et 2 du décret relatives à la dotation complémentaire pour les conseils départementaux aux services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile entrent en vigueur le 1er septembre 2022, selon des modalités transitoires qui a été énoncées à l'article 4 de ce décret. Les dispositions de l'article 3 qui s'appliquent au concours visant à compenser le coût pour les conseils départementaux du tarif horaire minimal de valorisation d'une heure d'aide et d'accompagnement s'appliquent au concours VSC au titre de l'année 2022. Il ne parle pas d'autre concours, il passe concours, hein. Il parle concourir, il amène, il donne. selon les modalités énoncées au même article 4. Alors, le décret prévoit les modalités d'attribution et de versement de la dotation complémentaire par les conseils départementaux aux services proposant de l'aide et d'accompagnement à domicile. Eh bien, vous allez me dire, mais ça, il concerne les conseils départementaux, il concerne... Ben oui, justement, il faut connaître que, justement, Nana l'argent, il retombe des prestations, Nana un financement, les prévus pour l'accompagnement à domicile que les données aux conseils départementaux. Hein? Et le décret, il définit les modalités de calcul et de versement au département de la compensation par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie du coût de cette dotation. Il définit également les règles de calcul et de versement au département par la Caisse du concours destiné à compenser les surcoûts induits par l'instauration d'un montant au réel minimal pour la valorisation des heures d'aide et de compensation du handicap. Il précise pour les deux concours, pour les deux aides, alors les deux concours, les données que le département doit transmettre à la Caisse. Alors, la référence, le décret est pris en application de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de sécurité sociale pour 2022. Eh bien, ces dispositions ainsi que celles du Code de l'action sociale et des familles et du Code de sécurité sociale qu'ils modifient peuvent être consultées dans leur rédaction issue de cette modification. Vous allez sur www.legifrance.gouv.fr, vous allez pouvoir trouver des informations. J'ai extrait ce qui vont, ou du moins concerne les conseils départementaux, ok, mais ça concerne surtout le financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile. À la retraite, encore une fois, hein, même ayant peu cotisé, vous pouvez prétendre un revenu minimum une fois à la retraite. Hein? Mais les conditions pour en bénéficier varient en fonction de votre situation. Le minimum auquel vous avez droit. En pratique, plusieurs mécanismes de solidarité permettant d'assurer un minimum de ressources aux personnes dont la retraite est insuffisante pour vivre. Faisons le point donc sur les critères à remplir pour recevoir un complément de revenu au titre du minimum contributif, de l'ASPA, ex-minimum vieillesse, du montant plancher de la pension de réversion. Le minimum contributif et le minimum vieillesse, il ne faut pas confondre. Le minimum contributif, si vous avez cotisé sur des petits salaires, ça y appelle le minimum contributif. Le minimum contributif concerne les personnes qui ont droit à une retraite à taux plein, mais ont cotisé toute leur carrière sur un petit salaire. Il résulte des cotisations que vous avez versées et des trimestres acquis durant votre carrière professionnelle. Le minimum contributif est alloué dès lors que vous bénéficiez d'une retraite de base du régime général à taux plein, c'est-à-dire au maximum de 50%, quels que soient vos autres revenus éventuels et ne concernent pas la retraite complémentaire. En 2022, le minimum contributif s'élève à 713,11 € par mois avec majoration. et 652,60 par mois hors majoration. Pour bénéficier du minimum contributif avec majoration, il faut remplir toutes les conditions, notamment réunir plus de 120 trimestres de cotisation. Alors après, il y a l'ASPA, l'ex-minimum vieillesse, une garantie pour tous. Je vous ai développé ça dans un jeudi précédent. Hein. Vous allez écouter si vous n'avez pas entendu. Eh bien, vous allez sur Google ou bien moteur de recherche, vous mettez conseil d'émaillage avec Annick, eh bien, vous allez trouver l'émission et vous allez pouvoir réécouter les émissions. Eh bien, pour ce qui concerne l'ex-minimum vieillesse, tout retraité a droit à un minimum de ressources pour vivre. Ça, franchement, ça me tracasse, ça me désole quand j'entends des gens qui disent « moi, je reçois que 200, je reçois que 300, je reçois que 600 ». Il y a un minimum vieillesse, ça s'appelle l'ASPA. Tout retraité a droit à un minimum de ressources pour vivre. Le minimum vieillesse, officiellement appelé « allocation de solidarité aux personnes âgées », l'ASPA, est une garantie minimale de revenus ouverte à toutes les personnes âgées. Mais son attribution dépend de leur situation familiale et des ressources de leur foyer. Attention, il faut d'abord prendre votre retraite, hein, pour voir si vous avez un petit peu retraite. Là, vous demandez l'ASPA pour compléter. Et puis, il ne faut pas non plus que vous en ait un foyer, parce que si la personne est mariée et le femme a l'argent, il travaille, ou bien même s'il est marié, il ne vit plus avec ou quoi que ce soit, eh bien, ça qui demande à vous, c'est le revenu fiscal de référence, le revenu fiscal du foyer. Donc, si le couple n'en a l'argent, ben, s'il a un, la cotise un petit peu, il ne peut pas avoir, il ne rentre pas dans le cadre du minimum vieillesse. D'accord? Donc, les conditionner. Hein? Alors, donc, pour avoir le minimum vieillesse, il faut que vous n'ayez pas l'argent du tout, et de votre foyer, et que votre petit retraite, c'est trop bas. 500, 400, 600, 700. Eh bien, il monte pour une personne, l'ASPA, le montant de l'ASPA s'élève à, en 2022 en tout cas, 916,78 € par mois pour une personne seule. 916,78 €. Et pour deux personnes en couple, par exemple, de deux, les mariés, ils vivent avec, la pointe d'argent, et bien, votre LASPA, il monte à 1423,31. C'est ça que je voulais dire jeudi passé. Nos fidèles de Moufia, là, l'avaient demandé à moi un petit peu le montant de tout ça, hein, pour la famille ou je ne sais quoi, hein, pour une personne, un camarade. Et bien, voilà les informations, hein. Alors, donc voilà pourquoi je vous rappelle toutes ces informations-là pour ce qui concerne l'ASPA, parce que ça repose des questions, etc. Donc, c'est embêtant, pas pour moi, hein, mais pour vous-même, de ne pas comprendre. Donc, de toute façon, le conseil d'émaillage est là pour ça. Hein, mais souvent, on dit faut aller sur Internet, mais la plupart des gens n'ont pas Internet. Alors, donc, le numéro de portable que je vous donnerai à la fin, eh bien, vous allez m'envoyer des textos, vous allez m'appeler. Si je ne réponds pas, vous laissez un texto avec votre numéro, c'est bien. Et je vous rappelle. Voilà. Donc, pour ce qui est de cette histoire de minimum vieillesse. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Yeah. Bon, nous allons parler des indépendants. Hein, ça, tu travailles les indépendants, là. Découvrez les prestations sociales auxquelles vous êtes éligible en cas, en quelques clics. C'est-à-dire que vous allez sur les aides publiques et financements. Le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Alors, si vous avez de quoi noter, hein, tous ceux qui sont travailleurs indépendants, vous allez sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Eh bien, ce site vous permet de, aux assurés sociaux et notamment aux indépendants, les micro-entrepreneurs par exemple, de retrouver en un clic toutes les aides dont ils peuvent bénéficier. Présentation de ce service sur ce site. D'accord ? Il y a l'assurance maladie, allocation familiale. Vous pouvez simuler vos droits sociaux. Il y a le portail mesdroitssociaux.gouv.fr qui permet aussi d'effectuer une simulation de vos droits sociaux tels que sont ouverts par la Sécurité sociale, qui concerne la santé, la famille, le logement, la solidarité et la retraite. Mais pas uniquement. En effet, vous pouvez aussi être renseigné sur les aides sociales liées à l'emploi, la prime d'activité, le compte personnel d'activité, chômage, etc. Vous le savez, même un micro-entrepreneur, il a le droit d'avoir, vous avez le droit d'avoir toutes ces aides-là, et notamment la prime d'activité. Hein? Donc, si vous avez besoin des renseignements complémentaires, conseil@radioarc-en-ciel.re ou alors sur le numéro de portable.
Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, tungangishilana. Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, tungangishilana. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze, suhambe nami. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana.
Bon, ben nous voilà arrivés aux questions des auditeurs. Donc, tout à l'heure, j'ai répondu à tous ceux qui ont envoyé un texto. Je rappellerai dès que j'aurai fini l'émission. Hein. Et par contre, j'ai une question qui est revenue là. Ça fait un moment qu'on me la pose et on me la repose. Je voudrais prendre ma retraite tôt. Mais j'entends partout qu'il faut attendre 62 ans. Est-ce vrai? Eh ben, c'est faux. L'âge légal auquel vous pouvez prendre votre retraite est bien fixé à 62 ans. Mais il existe des cas dans lesquels vous êtes autorisé à partir plus tôt. À commencer par les fonctionnaires de la catégorie active. Tout à l'heure, je l'ai dit. Des éboueurs, des travailleurs dans le service technique, certains services, etc. qui peuvent partir, et puis carrière longue aussi, qui peuvent partir dès 57 ans, voire 52 ans, pour certaines professions. À 52 ans, par exemple, police nationale, contrôleur aérien, etc., etc., certaines personnes, ou bien les personnes relevant des régimes spéciaux. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en retraite à 57 ans, voire 52 ans. Puis aussi, les assurés relevant du privé ou des régimes alignés, comme commerçants artisans, ils peuvent également partir avant 60 ans dans certains cas. En cas de carrière longue, je vous l'ai dit tout à l'heure, à condition de justifier d'au moins 5 trimestres avant ses 20 ans et de cumuler un certain nombre de trimestres variables selon l'année de naissance. Cumuler au moins 5 trimestres avant 20 ans, pour ceux qui sont nés en début d'année. Et ceux qui sont nés à la fin de l'année, 4 trimestres avant 20 ans. D'accord ? Et puis aussi, il y a d'autres conditions de trimestres réunies, hein, selon votre date de naissance. Et en cas de carrière menée avec un handicap moins de 50% pendant une certaine durée, vous avez la possibilité d'aller aussi avant 60 ans. En cas d'incapacité permanente résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, vous avez le droit de partir aussi avant 60 ans. Dans tous ces cas de départ anticipé, vous ouvrez droit en plus au taux plein. Enfin, les personnes qui ont cumulé des points sur leur compte professionnel de prévention pour carrière pénible peuvent également en transformer en trimestre, ce qui peut leur permettre de partir avant 62 ans avec le taux plein ou non. Hein? Il y a des possibilités de cumul de points pour partir en retraite avant. Mais là, ce sont des possibilités de partir avant 60 ans. Voilà, notre émission s'achève, hein, se termine en tout cas. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Merci à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel qui nous a accompagnés, avec Loïc à la technique, hein, qui a bien joué son rôle, hein, notre jeune Loïc là. Eh bien, Conseil et Démaillage se termine. N'oubliez pas que l'adresse mail de Conseil et Démaillage, c'est uniquement conseil@radioarc-en-ciel.re, le numéro de fixe 02 62 41 66 16 et le numéro de portable que vous m'appellerez dès après l'émission, 06 92 67 73 35. L'adresse postale, 18 bis rue Montreuil, 97 400 Saint-Denis. Merci, auditrice, auditeur. Merci beaucoup. Merci, Loïc. Au revoir, Loïc. Au revoir, toute l'équipe, et au revoir, tous nos fidèles, et même ceux qui viennent de nous écouter pour la première fois. Au revoir.